France Inter.
Bonsoir Kevin Dufray.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, Mayotte face au choléra.
Après la mort d'un enfant de 3 ans, hier soir, le premier décès lié à la maladie, sur place, le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, tente de rassurer. 10 patients sont ce soir hospitalisés en réanimation. On fait le point sur la situation dès le début de ce journal.
On en parle aussi avec l'infectiologue Benjamin Davido, il sera l'invité de ce journal. Les autres titres, Kevin.
Nous serons à Malmö, en Suède, où des milliers de personnes manifestent en soutien aux Palestiniens ce soir et contre la participation d'Israël à l'Eurovision. Parole de jeunes électeurs à l'occasion de la Journée de l'Europe et à un mois des élections européennes. Seulement un tiers des aires marines protégées dans le monde sont efficaces. On verra pourquoi. Et puis, objectif final, l'OM en mission ce soir à Bergame en Ligue Europa de football.
Dans le 18-20 ce soir, nous sommes en Géorgie qui a été secouée, vous le savez, par des manifestations. Vous l'avez suivi, c'est pas fini. Nouvelle manifestation prévu ce week-end, on le verra avec notre invité. Le reportage d'un jour dans le monde est aux États-Unis et surtout sur une planche de surf, une vague de surf avec une association de surfeurs noirs, parce que ce bon vieux stéréotype, les noirs ne nagent pas, ils ne surfent pas, eh bien croyez-moi, il a la vie dure. Kevin, vous nous parlerez d'un joueur de baseball japonais, le plus célèbre des États-Unis, escroqué par son homme de confiance. Claude Guibal, dans Le Monde à 18h50, nous demandera ce qu'on fait au final, nous dira ce qu'on fait au final de ces avoirs russes gelés par l'Union Européenne. Et puis, à part la Russie, tiens, quel est l'autre pays des fake news et des cyberattaques? C'est la Chine. Ce sera la tech, la première, juste avant 19h. Au téléphone sonne à partir de 19h20. Passion Eurovision, ce concours donc qui est donc samedi, côté pile, vous l'avez dit, aussi côté face. Vous avez le droit de le prendre au premier degré, au 18e degré, d'en faire une vitrine LGBT ou une réunion du G20 qui parfois se passe plutôt mal. On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Éviter donc la panique et la propagation.
Voilà ce que tentent de faire les autorités à Mayotte, l'archipel 101e département français où hier soir un enfant de 3 ans est mort du choléra. C'est la première fois depuis l'identification des premiers cas. Il y a un peu plus d'un mois, la petite fille vivait dans la commune de Kungu où au moins une cinquantaine de cas ont été déclarés. C'est là que s'est rendu aujourd'hui le ministre délégué à la Santé. Bonsoir Sarah, bonsoir.
Bonsoir Kevin.
Frédéric Valletoux qui estime que la réponse de l'Agence régionale de santé de Mayotte est adéquate.
Oui, car la stratégie est agressive. 4000 personnes déjà vaccinées et à chaque cas avéré, les contacts sont tracés et traités. Ça fonctionne, les chiffres progressent vite, mais ce ne sera sûrement pas suffisant, notamment parce que le vaccin met une dizaine de jours pour être efficace. Les autorités désinfectent aussi les logements contaminés. Ils distribuent également des antibiotiques. Mais écoutez, cet habitant de Kungu, il déplore une méfiance chez certains habitants.
Parce que moi aussi, je m'habite ici. Moi aussi, j'ai vraiment peur, mais je n'ai pas le choix. Il y a des gens aussi qui sous-estiment ce médicament-là. Ils disaient, ouais, quand je vais boire ça, c'est là que je vais être malade. Je dis non. Eux, ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont là pour nous aider.
Pour aider, justement, le ministère a envoyé des réservistes en renfort. Près de 70 médecins et infirmiers sont sur place, mais les besoins, Kevin, sont considérables.
Vacciner, traiter, mais l'enjeu maintenant, c'est donc de limiter les contaminations aussi.
Car trop souvent, l'eau contaminée à Mayotte est impropre et favorise les transmissions. Sur ce point, les 5 salariés, la trentaine de bénévoles de Médecins du Monde ciblent depuis des semaines les bidonvilles. Sa coordinatrice pour Mayotte, Marion Rammstein.
On a dû réadapter nos activités en renforçant les points de lavage de main pour nos activités, la distribution de savon, mais également on organise des maraudes dans les quartiers bidonvilles de Longoni et de Zoumonier pour faire passer des messages de sensibilisation sur le lavage de main, sur les gestes barrières pour éviter le choléra et sur quoi faire en cas de suspicion de choléra.
Quoi faire, c'est aller consulter au plus vite. Et là, il faut aussi rétablir la confiance d'une population pour moitié étrangère à Mayotte, population qui n'a souvent pas de téléphone, qui peut craindre les autorités. Et puis, autre point de vigilance et pas des moindres, la rentrée des classes la semaine prochaine, des lieux où le lavage de main n'est pas forcément systématique.
Les explications de Sarah Mansour.
Bonsoir Benjamin Davido.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Le ministre est rassurant, vous l'avez entendu comme nous, Benjamin Davido, sur les mesures qui sont prises. Est-ce que vous l'êtes aussi ?
Écoutez, en tout cas, ce qu'il faut, c'est absolument agir. Et de ce que je constate, c'est que depuis le début du mois, on se met en ordre de bataille. C'est évidemment difficile lorsque c'est pas sur l'Hexagone même et que c'est hors métropole. Mais clairement, ce qu'il va falloir être capable de faire si on veut agir de façon efficace, c'est également endiguer malheureusement les transmissions indirectes qui se font, vous le savez, depuis le mois de mars par une épidémie qui sévit très fort aux Comores. Et la question va être comment est-ce qu'on fait pour à la fois rassurer. Votre reportage était très bien fait dans ce sens-là, je trouve, parce qu'il faut aussi l'adhésion locale, j'allais dire, du peuple et des Maoris. Et on sait toujours que le regard de la métropole est différent, avec également ce qui se passe, j'allais dire, sur le plan géopolitique avec les Comores, et qui rend les choses d'autant plus difficiles à gérer.
Et le fait qu'on ne va pas se présenter spontanément aux autorités pour un vaccin, tout ça accentue évidemment la difficulté.
Oui, absolument. Au nord de l'île, si j'ai bien compris, il y a un seul hôpital avec 5 médecins urgentistes. Donc la confiance et la capacité à accéder à ce système de soins est évidemment extrêmement entravée. Et puis je pense qu'aussi dans l'inconscient collectif, vous savez, le choléra, évidemment, c'est quelque chose qui fait très peur. Mais là-bas, il y a un peu une sorte de fatalisme. Et malheureusement, comme ça a été bien expliqué également, ce qui va être extrêmement important, c'est de mettre en place les digues de façon pérenne, et notamment sur le système d'assainissement des eaux, pour éviter une nouvelle catastrophe avec des vagues successives épidémique. Et il n'est pas exclu que malheureusement, dans les prochains jours, et j'entendais qu'il y avait un certain nombre de dizaines de personnes déjà en réanimation, on voit apparaître d'autres décès, même si la létalité, c'est-à-dire la mortalité intrinsèque, est relativement faible, autour de 5%. On sait que les cas risquent de s'additionner dans les semaines et que les vaccins ne vont pas fonctionner immédiatement. Il faudra attendre probablement d'ici la fin du mois.
Est-ce qu'il y a plusieurs formes de choléra, docteur Davido ? Est-ce que celui-ci particulièrement est foudroyant ? Moi, j'ai lu quelque part qu'on pouvait, parce qu'effectivement, c'est une déshydratation terrible et très rapide. Est-ce qu'on peut vraiment mourir avec une très grande rapidité ?
Oui, absolument. En fait, d'abord, oui, il y a plusieurs souches plus ou moins virulentes, mais au-delà de la virulence, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est parfois extrêmement difficile dans cette maladie, comme d'ailleurs dans beaucoup de maladies infectieuses, c'est de comprendre qu'en réalité, il n'y a qu'une partie infinitésimale qui fera une forme grave de la maladie. On estime que 25% des gens sont symptomatiques, et parmi ces 25%, 10 à 20% sont susceptibles de faire une forme grave, notamment les enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont petits, qu'ils représentent un volume petit, moyen, global d'eau, et qu'on se déshydrate parfois énormément, comme les personnes les plus âgées. Et ce qui est d'autant plus difficile dans cette maladie et qui est sournois, c'est que c'est une maladie qui ne donne pas de fièvre. Hein. C'est le propre de ce qu'on appelle le syndrome choléreforme, et qui peut entraîner une déshydratation majeure avec des diarrhées parfois de plus de 15 litres. Je ne sais pas si vous imaginez, le volume sanguin, c'est 5 à 6 litres. C'est énorme. Les apports recommandés hydriques pour un adulte, c'est 2 litres par jour. Donc on voit bien que ces diarrhées peuvent entraîner un véritable collapsus, et que le temps de se rendre à l'hôpital, le temps d'avoir les perfusions, le temps d'avoir accès à ces traitements de bon sens dits symptomatiques, et bien parfois, malheureusement, il est trop tard.
On a entendu qu'il y avait 4000 vaccinations qui étaient en cours et des contacts qui étaient tracés. La contagion, ça marche à quelle vitesse ? Et pour un malade, surtout, combien de transmissions ?
Alors, le R0 de la maladie, comme ça, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est une maladie qui, malheureusement, est très contagieuse, dont, justement, la pénétrance de la maladie est difficile à estimer parce qu'il y a, justement, ces personnes asymptomatiques. Ce qui est certain, c'est que l'incubation, elle est relativement rapide, hein, de quelques heures à 24 heures, hein, comme, finalement, une gastro-entérite. Et donc, les contagiosités peuvent évoluer de façon extrêmement rapide et fulgurante. Et encore une fois, comme il n'y a pas d'immunité de la population et que, y compris l'immunité vaccinale, ne dure pas dans le temps, eh bien, c'est très difficile. Et donc, si on voulait, j'allais dire, être rapide, efficace, pardon, rapidement, en effet, la technique, c'est celle de la vaccination en anneau pour essayer de circonscrire l'épidémie. Mais idéalement, comme il y a malheureusement beaucoup de porteurs asymptomatiques, on l'a expliqué, il faudrait être capable d'avoir une montée en puissance pour une vaccination globale. L'île, sans me tromper, c'est autour de 270 000 individus. On voit bien que ça va être difficile et que le temps joue contre nous.
Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi le départ des délégations du Hamas et d'Israël du Caire après deux journées de négociations autour d'un projet de trêve. Pour l'instant, pas d'informations sur un éventuel accord. Alors qu'à Gaza, environ 80 000 personnes ont quitté Rafah depuis le début de la semaine et les premières frappes de l'armée israélienne sur cette ville où se sont réfugiés plus d'un million de Palestiniens depuis le début de la guerre. Chiffre donné ce soir par l'ONU. Quant au nord d'Israël, le Hezbollah affirme avoir frappé une position militaire depuis le sud du Liban. Riposte à la mort de plusieurs de ses membres ce matin dans une frappe israélienne. Le conflit au Proche-Orient, la situation à Gaza qui résonne jusqu'aux portes de l'Eurovision ce soir, qui se déroule cette année à Malmö en Suède, parce que la candidate israélienne participe à la demi-finale ce soir. Eden Golan et son titre, Hurricane, troisième proposition d'Israël, puisque les deux premières chansons avaient été retoquées. Faisait trop référence au massacre du 7 octobre et le règlement interdit tout propos politique. Mais ce soir, des milliers de manifestants contestent jusqu'à la participation même d'Israël au concours de chansons. À Malmö, le reportage de Benjamin Eli.
Sur la place centrale de Malmö, des chansons, oui, mais pas celles de l'Eurovision. des drapeaux palestiniens partout, des slogans sur les banderoles. On peut lire « Bienvenue au concours de la chanson du génocide ». Rory, 27 ans, irlandais, eurofan, mais aussi pro-palestinien. On s'oppose fermement à la participation d'Israël cette année au concours de la chanson, car cela offre une tribune pour la propagande d'un régime qui est en train, selon moi, de commettre un génocide. Je ne vais pas vous mentir, je pense qu'on est une minorité d'eurofans à défendre ce point de vue, mais là, ça ne passe vraiment pas honte à l'Union européenne de radio-télévision. Cela jette une ombre sur toute la compétition, et je soutiens ceux qui ont hué la candidate israélienne quand elle était sur scène. La fête ne peut pas continuer. Cette année, Israël a vivement déconseillé à ses citoyens de se rendre à l'Eurovision.
Benjamin Illy à Malmö, dans cette ambiance un peu particulière autour de l'Eurovision. Des milliers de policiers sont déployés en raison du contexte. Des renforts sont même arrivés du Danemark et de Norvège. Les liens entre Eurovision et politique, ce sera l'objet notamment du Téléphone Sun Fabienne à 19h20. La politique en Europe, ce sont les élections européennes dans un mois. Tout pile en France, le 9 juin. Côté campagne, tout le gouvernement est sur le pont aujourd'hui parce que c'est la journée de l'Europe. Le Premier ministre Gabriel Attal est à Vannes, vous l'entendrez dans le journal de 19h. Un scrutin qui, historiquement, en France, est synonyme d'une participation assez faible, hein, entre 40 et 50% chez les 18-24 ans. C'est même encore moins, 27% d'entre eux seulement se sont déplacés aux urnes en 2019. Et ça risque de ne pas s'améliorer cette année, Manon Mella.
Quand on pose la question...
Tu sais ce qui va se passer le 9 juin ?
Non, pas du tout.
Tu sais ce qui se passe le 9 juin, toi ?
Non, pas du tout, dis-moi.
La réponse a du mal à arriver.
Des élections de quelque chose...
Européennes, oui,
européennes.
Voilà.
Si les jeunes ont du mal à voter aux européennes, c'est parfois par désintérêt pour la politique, comme Elliot, 24 ans.
Ça m'intéresse pas et je m'en fous. Je pense que je suis pas encore assez peut-être mature pour me sentir concerné par toutes ces infos-là.
Tu penses que ça viendra avec le temps, en fait ?
J'espère.
Pour d'autres, c'est plutôt la défiance qui l'emporte, nous dit David, 19 ans.
Ils font en vrai ce qu'ils veulent.
T'as pas confiance. En fait.
Ah, en fait, j'ai pas confiance. Ils nous annoncent plein de choses, plein de nouvelles choses, plein de changements qu'ils vont faire. Mais qu'en réalité, une fois qu'il est au pouvoir, bah, il fait rien de ce qu'il avait dit ou fait la moitié, quoi. Ou je suis un peu réticent à voter.
Et puis, il y a la malinscription sur les listes électorales qui touche 39% des 18-25 ans. Aude habite à Paris, mais elle est inscrite dans une autre commune.
Je suis inscrite, mais chez mes parents, faut que je change ça. À part si je suis à la procuration, du coup, ouais, c'est pas. Je sais pas.
Mais ce n'est pas parce que les jeunes s'abstiennent qu'ils se désintéressent de la chose publique. Selon le ministère de l'Éducation nationale, presque la moitié des 18-30 ans ont fait du bénévolat au sein d'une association au cours de l'année.
Un reportage de Manon Mella qui est aussi à retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux de France Inter. L'Union européenne qui ces derniers mois a pris des mesures en faveur des agriculteurs, notamment en assouplissant certaines normes environnementales. Ça faisait suite aux manifestations qui ont traversé une bonne partie de l'Europe l'hiver dernier. Mais le mouvement est-il en train de repartir à un mois des élections ? Bonsoir Mariam El Kurdi.
Bonsoir.
Des agriculteurs mènent à nouveau des actions en France ces derniers jours.
Oui, des actions sur tout le territoire à l'appel du deuxième syndicat agricole, la coordination rurale. Pour sa présidente en Eure-et-Loire, Aurélia l'a interrogée sur France Bleu, la colère n'est pas retombée.
On a engagé des opérations de bâchage de radar sur tout le territoire français. En fait, on va empêcher le radar de fonctionner comme nous, on ne nous verse pas nos primes, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est aussi le mot, c'est qu'on nous empêche de fonctionner. Le gouvernement, aujourd'hui, a vraiment de belles paroles, mais il n'y a pas d'action concrète dans nos exploitations.
Ces primes, ce sont les aides de la PAC, la politique agricole commune. Leur versement est tardif, déplore la coordination rurale. Mais pour autant, on ne peut pas affirmer que le mouvement soit en train de repartir, Kevin. Ni les jeunes agriculteurs, ni la FNSEA ne se joignent à cet appel national à la mobilisation. Mot d'ordre du syndicat majoritaire, la vigilance, autrement dit, la pression continue. Des actions sont menées localement pour obtenir des réserves d'eau en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine par exemple. Autre sujet sensible, l'amélioration des revenus espérés dès cette année et non pas en 2025 après la nouvelle loi Egalim et les futures négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels. Très attendu également, les débats parlementaires sur le projet de loi d'orientation agricole, début de l'examen du texte mardi prochain au sein de l'hémicycle.
Mariam El Kurdi, service économie et sociale de France Inter. Au Sénégal, l'aéroport international de Dias, près de Dakar, est de nouveau ouvert ce soir après un accident la nuit dernière. Un avion de ligne a fait une sortie de piste avant le décollage. Bilan 11 blessés, dont 4 graves sur les 78 passagers présents à bord. Les circonstances exactes restent à déterminer, indique le gestionnaire de l'aéroport. Une enquête est ouverte. L'avion en question est un Boeing, l'avionneur américain qui fait face à plusieurs incidents sur ses appareils ces derniers mois.
Les aires marines protégées ne sont pas si protectrices.
C'est le constat fait par des chercheurs du CNRS dans une étude dévoilée aujourd'hui sur toutes ces zones délimitées en mer dans le monde où les activités humaines comme la pêche sont réglementées. Seulement un tiers sont efficaces pour préserver la biodiversité. Cette étude a été menée sur 90% des zones couvertes par ces aires marines protégées, Luc Chemla.
Le bilan est décevant car les problèmes sont multiples. Déjà, un quart des aires marines protégées, soit quasiment l'équivalent de la superficie de l'Australie, sont ce que Joachim Claudet surnomme des aires marines de papier. Autrement dit, selon ce directeur de recherche au CNRS et co-auteur de l'étude,
un quart n'existe même pas.
Et pour cause ?
Pour qu'une aire marine protégée compte au niveau international, il suffit qu'un pays la déclare. Donc elle peut être uniquement déclarée, mais ne pas être mise en place sur l'eau.
Et n'avoir donc pas de mesure de protection. Ensuite, d'après les scientifiques, les aires marines les plus efficaces sont celles où il n'y a pas de pêche et pas d'extraction de minerais ou même de sable. Or, actuellement,
l'écrasante majorité n'ont pas de réglementation différente entre l'intérieur et l'extérieur de l'aire marine protégée. Elles autorisent les activités industrielles qui ont des impacts sur les écosystèmes et sur la biodiversité et ne régulent absolument pas ces activités.
Pour s'en rendre compte, Joachim Claudet donne un exemple assez parlant.
En Atlantique, Manche, mer du Nord, dans la zone économique exclusive française, il y est déclaré 40% d'aire marine protégée, mais ce qui va réguler les activités, on est à 0,01%.
Partant de ce constat, le chercheur espère donc une réglementation plus stricte, plus contraignante pour les États afin de pouvoir protéger la biodiversité, car aujourd'hui, ce que l'on fait est contre-productif, conclut le scientifique.
Luc Chemla, là, la décision est radicale. En Thaïlande, les autorités interdisent aujourd'hui l'accès à une île et au parc national côtier de Phuket en raison du blanchissement des coraux, du réchauffement de la température des océans et aux activités humaines. L'Asie du Sud-Est qui est frappée depuis plusieurs jours par une vague de chaleur exceptionnelle.
Touché mais pas coulé.
Raphaël Nadal au premier tour du Masters 1000 de Rome, c'est du tennis. L'Espagnol a difficilement battu Zizou Bergs, joueur belge issu des qualifications en 3-7. Nadal qui affrontera Hubert Hurkacz, 9e joueur mondial au 2e tour. Réussir là où le Paris Saint-Germain a échoué, rien ne pourrait faire plus plaisir aux Marseillais ce soir. Ils vont tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa de football, l'OM en Italie, sur le terrain de l'Atalanta Bergame à 21h pour cette demi-finale retour. Tout est ouvert puisque le match aller avait donné un nul, un partout. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Kevin.
Vous êtes à Bergame où Marseille est prêt au combat pour atteindre sa 6e finale européenne.
Oui, il va falloir livrer bataille. On va axer sur le combat. Ce sont les mots de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur marseillais, hier en conférence de presse. Et notamment, il va falloir bien défendre face à un grand attaquant par la taille et par le talent. 1m95, Gianluca Scamacca, qui a marqué le but de l'Atalanta au match aller. Il n'était pas forcément en confiance au début de saison, peu utilisé par son entraîneur. Il vient de marquer 10 buts en 12 matchs. Mais l'OM, décimé notamment en défense ces dernières semaines, retrouve peu à peu toutes ses forces. Il y aura notamment Quentin Merlin, Jonathan Clauss et surtout Samuel Gigot qui devrait retrouver son brassard de capitaine devant Pierre-Emerick Aubameyang. 27 buts cette saison, 12 en Coupe d'Europe, dont 10 en Ligue Europa. C'est aussi l'un des espoirs de cette Olympique de Marseille qui a connu une saison fantasque. 4 entraîneurs se sont succédés, Marcelino Abbandonado, Gattuso et maintenant Jean-Louis Gasset. Et dans la ville de Bergame, qui a inspiré à Claude Debussy sa célèbre suite bergamasque, notamment le sublime Clair de Lune, Jean-Louis Gasset l'a dit hier en conférence de presse, si on doit aller au bout de la nuit pour se qualifier au tir au but, eh bien on le fera.
Jean-Pierre Blimeau en direct de Bergame pour France Inter. Vous aussi, vous y serez jusqu'au bout de la nuit. Donc, dans l'autre demi-finale, avantage au Bayern Leverkusen. Les Allemands jouent le match retour à domicile face à la Roma après l'avoir emporté 2-0 à l'aller. Lui, en revanche, pourrait ne pas jouer la finale de la Ligue des Champions. Aurélien Tchouaméni, blessé, fracture de fatigue au pied gauche, annonce ce soir le Real Madrid. Le milieu de l'équipe de France est donc incertain aussi pour l'Euro qui démarre en Allemagne dans un mois.
Kevin Dufraîche, merci beaucoup. À tout à l'heure dans Sous les radars, on jette un œil sur le ciel.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Et Sébastien Léas, plein soleil ou presque pour demain.
Oui, la journée de demain sera à nouveau placée sous le signe du soleil. Un soleil qui aura tout de même tendance à se voiler un peu l'après-midi sur la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Alors en début de matinée, il faudra parfois attendre la dissipation des grisailles pour profiter de ce temps ensoleillé. Ces brouillards et nuages bas se feront surtout remarquer sur les départements près de la Manche, autour du Massif central ou encore dans la vallée de la Garonne. Et puis en cours d'après-midi, le ciel deviendra un peu plus variable sur les Alpes avec l'apparition de nuages. Les nuages les plus épais pourront lâcher quelques gouttes, mais ces petites averses seront faibles et isolées, voire anecdotiques.
Et la hausse des températures se poursuit.
Oui, la douceur monte encore d'un cran par endroit. On pourra même parler de chaleur et d'ambiance estivale, puisque la barre des 25 degrés sera atteinte au nord comme au sud. Prévoyez 22 degrés à Lille et Caen, 23 degrés à Nancy, Dijon et Montpellier, 24 degrés pour Paris, Strasbourg, Toulon et Bastia. On attend 25 degrés à Quimper, Lyon et Limoges, 26 degrés à Nîmes et Marseille, 27 degrés à Bordeaux et Toulouse et 29 degrés à Pau. La journée de samedi sera encore plus chaude et encore plus ensoleillée avant le retour d'averses localement orageuses par le sud-ouest pour dimanche.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.